France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Ce matin, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée. Cette phrase de Christine Renon, elle est désormais connue tous les enseignants et au-delà. La première phrase de la lettre qu'elle a laissée avant de mourir. Depuis le 21 septembre, beaucoup d'enseignants, beaucoup de directrices et directeurs d'école disent « J'aurais pu moi aussi écrire cette lettre, cet épuisement ». Je connais, il y a eu un jour de grève après le choc, il y a eu les obsèques, il y a eu la marche blanche. Et après quoi, chacun retourne dans son établissement, c'est ça, et se remet aux multiples tâches, à cette accumulation de détails, de lourdeurs, de maladresses administratives, de non-sens pratiques parfois, qui font que l'épuisement fait plonger certains. Parfois dans le vide. La directrice d'école, c'est celle qui est là pour ouvrir la porte le matin, celle qui partira la dernière pour terminer le tas de courriers qui semble être de la génération spontanée. La directrice d'école, c'est celle qui va devoir gérer le petit qui s'est ouvert l'arcade sourcilière dans la cour. C'est pas difficile et c'est pas grave, mais faut y aller. Qui s'inquiète aussi pour un autre et qui chose donc une casquette d'assistante sociale pour un moment. Celle qu'on vient voir quand ça va, celle qu'on vient voir aussi quand ça va pas. Celle qui se fera peut-être engueuler par les parents ce soir. Celle qui essaye de faire passer dans son établissement une nouvelle réforme venue dans haut, celle qui s'assure qu'il y ait bien du savon dans les toilettes, celle qui n'a toujours pas remplacé l'instit absente pour 8 jours parce qu'il faut trouver quelqu'un et au passage elle a toujours une classe, en tout cas une demi-classe dans la plupart des cas. Cette directrice ou directeur d'école, ça n'est pas vraiment une fonction, c'est un boulot en plus parce qu'il n'y a pas de statut contrairement au collège et au lycée. Les directeurs, les directrices, leurs collègues aussi ont tous réfléchi à leur métier. Après, Christine renonce qu'il faudrait changer ce qu'ils ne sont plus prêts à accepter, ce que la vocation permet d'encaisser avant que tout dérape, déborde et se dérobe. On en parle ensemble ce soir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Judy Kael, c'est vous le premier. Bienvenue au téléphone sonne.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Je vous appelle ce soir parce que le lancement de l'émission a vraiment... rappeler quelque chose en moi et a vraiment touché toutes mes préoccupations qui sont à l'heure actuelle celles des directeurs d'école.
C'est-à-dire, allez-y Judica, racontez-nous, ça ressemble à quoi votre quotidien de directeur d'école ?
Le quotidien, c'est vraiment une multitude de tâches, comme vous l'avez dit précédemment. On est concierge, on est plombier, on peut être facteur... Et puis ça, ce sont des tâches qu'on dirait plutôt basiques. Et en même temps, on peut être amené à vraiment être confronté à des tâches qui sont beaucoup plus complexes avec toutes les responsabilités qu'il y a trait au métier de directeur d'école, des situations qui sont graves, des situations de sécurité, des situations d'urgence. Et dans une même journée, on peut avoir tout cet éventail de choses à s'occuper. C'est vrai que quand on arrive à l'école le matin, on ne sait jamais ce qui va nous arriver, on ne sait jamais à quelle heure on va quitter l'école.
Et ça fait combien de temps que vous êtes directeur, vous, Judicaël ?
Moi, ça fait 20 ans que je suis directeur d'école. J'étais directeur d'école à deux classes, à une classe, à cinq classes, et maintenant je suis directeur d'école à huit classes.
Et est-ce que des fois on se dit, c'est bon, je jette l'éponge, je vais redevenir, pardon de le dire comme ça, simple professeur des écoles, au fond, j'aurai moins de soucis. Est-ce que vous vous êtes posé cette question plusieurs fois ou pas ?
C'est même plus que ça, parce qu'à un moment donné, l'institution même nous rapporte ça. J'ai déjà entendu, quand on éprouvait des difficultés et qu'on les faisait remonter, j'ai déjà entendu ça, on m'a déjà dit, vous savez, si vraiment c'est trop pesant pour vous, vous pouvez reprendre une classe et puis redevenir simple adjoint. Et il y a toujours la motivation, il y a toujours la foi, il y a toujours quand même l'espérance qui est là, et puis une vocation quand même pour cette fonction qu'on a choisie, ça c'est sûr, mais qui devient de plus en plus difficile à porter.
Merci beaucoup, merci vraiment pour ce premier témoignage qui nous place vraiment dans le débat qu'on voudrait avoir jusqu'à 20h ce soir pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Aline Becker est là, bonsoir, vous êtes directrice d'école maternelle à Antoniste en région parisienne, vous êtes syndiquée au SNU IPP FSU et bonjour Céline Rilac, vous êtes députée de La République En Marche dans le Val d'Oise et vous êtes rapporteuse d'une proposition de loi dont on va parler et qui concerne très directement les directeurs d'école. Moi je voudrais votre avis à toutes les deux, Aline Becker, puisque c'est l'un de vos collègues, sur le témoignage de Judicaël. Là aussi, vous vous y retrouvez, j'imagine, dans ce qu'il dit ou pas ?
Tout à fait. Il y a une forte résonance dans ce que vient de dire Judicaël. Je pense que toutes les directrices, tous les directeurs d'école, quel que soit le secteur dans lequel ils se trouvent, le type d'école qu'ils doivent gérer, font face aux mêmes problématiques, aux mêmes difficultés, à une charge de travail qui s'est alourdie et avec une démultiplication de tâches qui nous éloigne du cœur de notre mission.
C'est ce que je vais vous demander. Est-ce que c'est pire ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites des choses aujourd'hui qu'au début, vous ne faisiez pas, en fait ?
Alors,
dans les petits détails qui s'accumulent, parce que tous les témoignages, effectivement, depuis 8 jours maintenant, c'est ça, c'est une avalanche de petits détails, parce que en effet, pas de savon dans les toilettes, c'est pas grave. Oui, mais sauf que si personne s'en occupe, il y en aura pas. Donc, est-ce que ça a explosé ces petites tâches-là,
alors,
en fait?
Ça a explosé dans le témoignage. Moi, je n'ai que 3 ans d'expérience de direction d'école. J'ai 20 ans d'expérience d'enseignement, mais ça ne fait que 3 ans. Mais le constat que j'ai pu avoir de la part d'autres collègues qui m'ont témoigné aussi de l'évolution du métier, c'est qu'effectivement, on démultiplie les tâches et on met une pression supplémentaire aussi sur le dos des directrices et des directeurs d'école. Les exigences sont plus fortes de la part de la société en général par rapport à l'école. Et donc, sur les directeurs d'école directement, hein, comme le disait le collègue, bah, les parents viennent nous voir nous en premier lieu. S'il y a un problème de fonctionnement de l'institution, c'est nous qui sommes les premiers interlocuteurs de cette institution. Donc on a à répondre parfois des manques et des défaillances de l'institution directement en direction des familles. On a aussi des demandes parfois contradictoires avec des évolutions permanentes, que ce soit dans les programmes, les orientations, les circulaires qui nous demandent sans arrêt de revoir nos missions différemment, qui font perdre aussi du sens à notre métier. Des collègues aussi qui se fatiguent parce que les conditions de travail dans les classes sont difficiles aussi. Et on a aussi une pression très forte sur les questions de sécurité des élèves, qui pèse énormément sur nos épaules.
Cécile Rilac, j'entends parler de sens, j'entends parler d'être débordée sur des tâches qui n'ont pas beaucoup de sens elles-mêmes. Je reviens sur ce que disait Judicaël, qui dit bien sûr que quand on dit on est fatigué, on nous répond « bah si tu veux, t'as qu'à redevenir instite et puis ce sera plus simple comme ça ». Ça paraît quand même assez dingue d'entendre des choses pareilles. Et surtout de s'en rendre compte à l'occasion d'un drame aussi terrifiant que le suicide de Christine Renaud.
Alors, heureusement qu'on ne s'en rend pas compte à cause d'un drame, puisque nous, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille sur cette question. Parce que pour revenir à l'origine, vous avez parlé donc d'un rapport. Si ce rapport est sorti l'année dernière, c'est parce que dès la rentrée 2017, en visitant les écoles de ma circonscription, j'ai justement eu la surprise d'entendre de la part de toutes les directrices et de tous les directeurs que j'ai rencontrés à ce moment-là, me dire là, on est très inquiet parce qu'on va nous enlever une aide administrative et sans cette administrative, je ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est là où, en fait, moi, j'ai eu déjà ce petit signal d'alarme. Donc, il y a eu cette mission.
Et le projet de loi va être accéléré, du coup?
Alors,
maintenant,
pas du tout, parce que le temps législatif, vous savez, est long, et puis ce n'est pas forcément peut-être une réponse législative à cela. Mais une chose est sûre, c'est que la question, maintenant, elle est posée, elle est clairement encadrée. Et moi, depuis 2 ans, je dis qu'il faut qu'on s'attelle à cette définition du métier de directeur d'école. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un métier, c'est une fonction à part entière. Et on doit reconnaître peut-être véritablement les missions qui se sont accumulées depuis particulièrement ces 5 dernières années, oui.
On va y revenir justement, je voudrais qu'on écoute Olivier qui lui aussi est directeur d'école. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Je voulais interpeller les invités, notamment Madame la députée, concernant le mépris dont nous faisons l'objet sous les commentaires, sous les articles qui parlaient du suicide de notre collègue. Un certain nombre de commentaires disaient, je vous en cite un que j'ai croisé qui m'a choqué, comment ça, 4 semaines après la rentrée, est déjà fatigué. Voilà, ça c'est les mots qu'on a pu lire, qu'on peut lire tous les jours, toute l'année. Un mépris, une haine, nous sommes considérés comme des privilégiés. Moi personnellement, je suis directeur d'une école, j'accueille à peu près 200 élèves, donc 170 familles. Je suis effectivement comme le collègue concierge, plombier, conseiller d'orientation, etc., etc. J'ai déjà été agressé 2 fois. Par 2 parents d'élèves. Une fois, ma hiérarchie m'a dit surtout ne portez pas plainte. Et les politiques, depuis des années, ça fait 10 ans que je suis directeur, ça fait 10 ans qu'ils le font, continuent à dire que nous ne travaillons pas, que nous sommes des feignants, que voilà, ils installent cette petite musique. dans la société, un ancien président de la République s'étonnait même que nous ne travaillions que 18 heures ou 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Je voudrais savoir comment nous allons être redorés aux yeux de la société et comment, par quelles actions concrètes, vous allez enfin nous remettre là où on devrait être au sein de la société vis-à-vis des gens. Parce que vous parliez à l'instant de définition de nos missions, c'est ça. Nous ne sommes pas considérés par les gens, puisque nous ne sommes même pas considérés par notre hiérarchie et les responsables politiques.
Merci beaucoup, Olivier. Je vais vous laisser répondre, Cécile Rilhac. Il parle d'image, Olivier. On l'entend beaucoup chez les profs, et pas seulement après cet épisode-là. On l'a entendu aussi autour des réformes Blanquer, etc. Et les profs aujourd'hui, les instits, les professeurs des écoles, ont besoin que leur image soit revalorisée. Ils ont le sentiment qu'elle ne l'est pas.
Oui, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi savoir que moi, je suis issue du métier et des métiers de l'enseignement. Je suis moi-même
vous
une ancienne.
Vous l'avez entendu, vous aussi.
Je suis moi-même une ancienne enseignante.
11 mois de vacances,
voilà,
etc.
Donc, tout ça, moi, je l'ai déjà largement entendu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis un petit peu engagée en politique. Donc, bien entendu, moi, je prône justement une revalorisation particulièrement de la fonction des directeurs d'école. Parce que lorsque le directeur d'école, c'est lui qui, en effet, est confronté à l'entrée de son école aux parents d'élèves qui en effet peuvent être agressifs, c'est lui qui va devoir gérer les relations interpersonnelles au sein de son équipe, même parce que c'est gérer des relations d'adultes, c'est le directeur qui le fait et pas simplement des enseignants, parce qu'il y a d'autres adultes aujourd'hui dans l'école, particulièrement aux écoles maternelles. C'est lui qui va aussi gérer les relations entre les élèves, qui va gérer des situations de bagarre, de conflit. Donc c'est très lourd pour une seule personne. Et souvent, le thème c'est la solitude des directeurs d'école. Et oui, c'est vrai que dans ces cas-là, le directeur et la directrice, ils sont seuls.
Aline Becker, est-ce que vous avez senti vous aussi que vous n'étiez pas apprécié à votre juste valeur, y compris de la part de l'institution surtout? C'est surtout de l'institution aussi dont on parle.
C'est essentiellement de l'institution, parce que les familles sont en très forte attente par rapport à l'école et en même temps ont une certaine reconnaissance du métier que l'on fait, du travail des enseignants. Ce qui nous manque de la part de l'institution, c'est une reconnaissance de notre professionnalité. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des prescriptions descendantes qui nous empêchent de travailler de la façon dont on souhaiterait, avec l'expertise que l'on a en tant que professionnel et qui n'est absolument pas reconnue. Et c'est extrêmement dévalorisant d'avoir sans arrêt des injonctions contradictoires qui nous mettent en difficulté, mais les directeurs d'école, mais même l'ensemble de l'équipe. Et quand une équipe est en difficulté professionnelle, c'est aussi la directrice ou le directeur, c'est le cœur de sa mission, c'est de coordonner le fonctionnement pédagogique de l'école. Quand on a sans arrêt des injonctions contradictoires, des circulaires qui viennent les unes après les autres, nous changer entièrement l'orientation des apprentissages et des enseignements, on perd le sens de l'école. On a des familles qui ne comprennent pas non plus et on est obligé de justifier auprès de familles des choses qui nous paraissent à nous-mêmes incohérentes. Sans compter qu'on a aussi, on n'en parle pas beaucoup là ce soir parce que c'est pas le sujet directement, mais la question de l'inclusion scolaire qui pèse très lourdement qui nous met aussi en difficulté, parce que quand on témoigne de la difficulté de mettre en place cette inclusion, on nous renvoie qu'on rejette un certain nombre d'élèves, qu'on ne souhaite pas les accueillir dans l'école. Or, c'est tout le contraire. Sauf qu'on souhaite le faire de manière acceptable et bénéfique pour ces élèves. Et c'est toutes ces contradictions, en fait, qui nous mettent en souffrance professionnelle.
Cécile Rilhac, j'ai vu que vous vouliez intervenir. Allez-y, on retournera au standard dans un instant.
Par rapport à la reconnaissance de l'institution, moi, lorsque j'ai préparé ce rapport, j'ai auditionné pourtant les responsables administratifs, j'ai auditionné les inspecteurs et je peux vous assurer pourtant que il y a une reconnaissance, c'est-à-dire que les inspecteurs savent ce que font leurs directeurs d'école, savent le quotidien des enseignants, chacun est ensuite dans l'emballement de la vie quotidienne. Mais donc il faut en fait appuyer aujourd'hui particulièrement cette mission du directeur d'école, reconnaître sa fonction,
donc
reconnaître la valeur.
Avoir un métier de directeur d'école, ça veut dire plus de classe du tout. quelle que soit la taille de l'école, que ce soit un directeur d'école comme un censeur, un proviseur en collège et lycée.
Ça sera très difficile parce qu'en France, vous savez, sur 45 500, on va dire, écoles, il y en a quasiment 17 000 qui font moins de 3 classes. Donc, on peut pas gérer de la même manière une école où il y a moins de 4 classes, des écoles, on va dire, qui ont moins de 8-9 classes, et puis les autres. Donc, il faut véritablement réfléchir à cette mission de directeur d'école. Mais dans le rapport, moi, c'est ce que je préconisais, c'était que au-delà de 10 classes, il y ait une décharge totale, c'est-à-dire que le directeur puisse accomplir toutes ses missions, et particulièrement ses missions premières, qui sont d'abord le pilotage pédagogique, le suivi des élèves et le relationnel avec les familles et c'est ça leur cœur de métier. Donc pour qu'ils aient le temps déjà de retourner sur leur cœur de métier. Et puis l'autre préconisation, c'était peut-être que de 5 à 10 classes, ils aient au moins 2 jours. Parce qu'aujourd'hui, à 5 classes, ils n'ont qu'une seule journée. Donc voilà, redonner du temps à nos directeurs, et peut-être pour les petites écoles, et ben peut-être leur octroyer une aide plus administrative comme ou de gardiennage.
Rapidement, Lynn Baker, pour vous, ça se passe comment? Vous avez combien de classes, vous m'avez
Alors,
dit, pardon?
Moi, j'ai 7 classes.
7 classes, et vous avez...
J'ai une demi-décharge qu'on est en quartier prioritaire de la politique D'accord. de la ville et que je bénéficie d'un carton supplémentaire de décharge de classe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, que la décharge de direction doit être beaucoup plus importante, et y compris pour des toutes petites écoles, que les collègues puissent bénéficier d'au moins une journée de décharge, parce que ça occupe les tâches administratives. Certaines sont incompressibles. On est obligé, quelle que soit la taille de l'école, de les effectuer, que ce soit pour les inscriptions des élèves, le suivi, l'organisation et le fonctionnement administratif de l'école. Il y a des tâches incompressibles. Donc qu'il n'y ait pas une classe sans décharge. Pas une école sans décharge.
Sinon, on fait ça sur ses jours de congé, le samedi, j'imagine, ou des choses comme
Le soir. Moi, mes journées d'école sont de 10 heures par jour. Depuis 2 ans que je suis sur la direction d'école, je ne fais pas des journées de moins de 10 heures, je n'y arrive pas. C'est pas possible.
Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Pierre, on vous écoute.
Oui, ben voilà. On s'est battu au mois de juin contre la réforme Blanquer, et notamment la réforme Blanquer qui voulait à terme instituer un statut pour les directeurs. Et puis là, on prend tous en pleine face. Moi, je suis directeur depuis 16 ans dans une école de 8 classes où on se défonce pour les élèves, où j'ai une super équipe. Et on nous remet aujourd'hui, la seule réponse de Jean-Michel Blanquer, c'est le statut. Il y en a ras-le-bol de ce gouvernement. Il y en a ras-le-bol de ce gouvernement. C'est vraiment de la colère qui s'exprime. Comme si le statut allait, moi, m'aider quand il y a une ampoule grillée, quand il y a une ramette de papier qu'il faut aller chercher, quand il faut un rendez-vous avec les parents, quand il y a des vêtements perdus, quand il y a des problèmes de poux dans les classes, quand il y a des informations préoccupantes parce qu'il y a un môme qui se fait taper. C'est ça, aujourd'hui, la réponse du gouvernement. La réponse du gouvernement, aujourd'hui, ça devrait être quoi? Ça devrait être qu'il faut du temps pour les directeurs, du temps, de l'aide administrative, et arrêter avec la malveillance de l'institution. Il y en a ras-le-bol, vraiment, de cette malveillance. Moi, j'adore mon métier, j'adore mon école, j'adore mes collègues. Ça se passe quand même globalement bien avec les parents. Et aujourd'hui, on nous propose quoi? Le statut, être chef. C'est ça, la vision de l'école.
Mais si
moi, ça me désespère, franchement.
Pierre, une question. Si vous dites que, notamment, c'est du temps qu'il vous faut, c'est quelque chose que j'entends, mais du coup, si, avec ce statut, on vous décharge intégralement, donc est-ce que ça ne changerait pas quelque chose pour vous?
Le statut, c'est de devenir chef. Et être chef, c'est la solitude. Une école, elle fonctionne si les collègues se mettent autour d'une table dans les conseils des maîtres et décident collectivement d'une politique pour l'école et d'une politique pour aider les enfants, pour faire réussir tous les enfants. C'est ça qui marche. C'est pas la solitude du chef d'établissement qui va avoir à gérer son école. Ça, c'est pas vrai. Ce qui marche, c'est le travail en équipe. C'est arriver à une école, bienveillante avec tout le monde, et qui, vraiment, par le travail en équipe, par les décisions collectives, il faut que notre institution, notre ministère, fasse confiance à ses enseignants. Parce que 99% des enseignants font formidablement bien leur métier. Et donc, c'est ça qu'il faut. C'est surtout pas le statut.
Merci pour ce témoignage, Pierre. Merci pour la colère aussi, Cécile Rilac. Je ne peux pas ne pas constater que tous les directeurs qui nous appellent, c'est pareil des profs, et ça a été le cas aussi dans les téléphones sonnes précédents, sont à cran contre l'institution. Il y a quelque chose à régler entre l'institution et ceux qui la font, vraisemblablement, non ?
Il faut réinstaurer un dialogue qui soit peut-être beaucoup plus
visiblement il y est plus.
Moi je sais que ça fait depuis monsieur parlait de du projet de loi école de la confiance. Moi je suis sur le terrain depuis le mois de février. Donc et à chaque fois en effet, je sens bien qu'il faut renouer ce dialogue, cette discussion entre les politiques parce que le terrain a l'impression qu'on ne l'écoute pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire suite à ce témoignage, que si justement on l'écoute et que si moi je fais aujourd'hui, je suis en réflexion pour proposer peut-être une proposition de loi sur un statut ou une fonction de chef d'établissement du premier degré, c'est bel et bien que il faut voir que c'est grâce à la reconnaissance du métier que justement l'institution pourra octroyer des décharges supplémentaires, pourra aussi peut-être revaloriser les salaires par peut-être un système de primes, et quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est pourtant extrêmement important, parce que moi c'est une détresse aussi que j'ai entendue des directeurs d'école depuis 2 ans, c'est le manque de formation à ce métier. C'est-à-dire que les directeurs d'école, il y en a certains, on les met du jour au lendemain, on leur dit c'est votre école, vous avez accepté, merci d'ailleurs, on les remercie, et ils n'ont aucune formation pour les nombreuses missions dont ils ont besoin. Et le fait de passer par un changement du métier, une reconnaissance de cette fonction, peut être aussi valorisé par une réelle formation.
Devenir directeur d'école, c'est l'inverse d'une promotion. Personne n'en veut, certains ont même été nommés de force. C'est ce que nous dit Pierre-Yves Kissy, une prof des écoles ayant échappé de peu à une direction d'école. Aline Becker, on n'a pas envie d'être directeur d'école au fond, parce qu'on sait que c'est une sinécure et que ça va être très très compliqué.
Alors si, on est quand même un grand nombre à avoir envie d'embrasser cette mission, parce que c'est aussi une opportunité professionnelle d'avoir un autre fonctionnement, de travailler autrement. Moi, je partage ce que vient de dire Pierre tout à l'heure, juste précédemment. C'est que je considère que la question du statut ne réglera pas nos problèmes. Le fonctionnement de l'école primaire n'est déjà pas celui du collège. Donc ce n'est pas simplement en créant un statut au directeur d'école qu'on va régler l'ensemble des problèmes. Et il a tout à fait raison de dire que ça risque de nous isoler davantage. C'est la grande difficulté qu'on risque d'avoir avec un statut, c'est d'être un maillon intermédiaire supplémentaire, ce que nous ne sommes pas pour l'instant aux yeux de nos collègues et dans notre capacité à travailler au quotidien avec nos collègues. Moi, des conseils des maîtres, j'en fais tous les 15 jours avec mes collègues, on se réunit autour de la table, on discute des problématiques qu'on a dans le fonctionnement de l'école au quotidien et on trouve des solutions ensemble. Par contre, tout ce qui nous détourne de nos missions premières sur les questions de tâches administratives, là on a besoin de créer des vrais métiers nouveaux dans les écoles. Là on a besoin d'avoir des personnels qui puissent venir en aide aux directeurs d'école. C'était ce qui existait pendant un moment avec les contrats aidés, sauf que c'était des emplois précaires qui n'avaient pas vocation à perdurer dans les écoles. Ça fait pas mal d'années qu'on demande à ce que ces emplois soient pérennisés comme des vrais métiers, de la même manière que pour les AESH qui interviennent dans les établissements, dans les écoles auprès des élèves porteurs de handicap, on demande à ce que ce soit des vrais métiers avec de la formation. Là, on demande aussi à avoir des vrais métiers, et je partagerai aussi ce qui a été dit sur la formation. On manque considérablement d'un vrai dispositif de formation. On a bien une adaptation à l'emploi, quelques semaines avant nos prises de fonction, 3 semaines avant notre prise de fonction, une adaptation à l'emploi, mais c'est très insuffisant pour
réfléchir.
On vous
apprend quoi ? Alors certainement pas à déboucher les toilettes, etc. Non, mais je dis ça parce qu'on a une question dans ce sens-là qui dit, moi à un moment j'ai dû déboucher les toilettes moi-même, comme ça au moins c'était fait.
Mais on gère au quotidien des problèmes de toilettes bouchées, de portes qui ne fonctionnent plus, de demander des interventions de services techniques, on passe notre temps à ça.
Il y a cette question sur franceinter.fr d'Hervé qui dit dans les collèges, il y a toujours plusieurs personnes pour gérer. Dans une école, tout repose sur les épaules du directeur ou de la directrice. Pourquoi ne pas réfléchir à des équipes de direction d'école ? Vous avez une adjointe ou un adjoint ?
Absolument pas.
C'était une question. Donc la réponse est non. À partir de quelle dimension d'école il y a un adjoint ou une adjointe ? Ou il n'y en a jamais ?
Il n'y en a pas.
D'accord, comme ça au moins c'est clair. Donc pourquoi ? C'est fou quand même. Quand il y a 200 personnes, 200 gamins dans une école.
Parce que tous les enseignants sont des adjoints.
D'accord, oui. Potentiellement, puisqu'on fait partie de l'équipe pédagogique, donc au fond, de fait, chaque... Est-ce que ce serait une
Mais
solution?
Sauf que les enseignants n'ont pas pour mission de remplir des tâches administratives, n'ont pas pour vocation, leur cœur de leur métier, c'est d'enseigner, d'être dans les classes auprès de leurs élèves et d'enseigner.
Est-ce que ce serait une idée si vous aviez un ou une adjoint ou adjointe, au moins quelqu'un qui pourrait partager avec vous les tâches administratives ou même prendre les décisions à plusieurs, parce qu'on est en général plus intelligent à plusieurs? Donc
sur
est-ce que ce serait une solution?
Voilà. Sur la prise de décision, l'équipe pédagogique a cette vocation-là. Quand on se réunit en conseil des maîtres, c'est pour prendre des décisions. Moi, en tant que directrice d'école, je n'ai jamais pris une décision toute seule, isolée dans mon bureau. Ou si j'ai dû prendre une décision dans l'urgence, j'ai trouvé le moyen d'en faire part à mes collègues, de leur soumettre la décision. Par contre, c'est vrai que nous sommes directrices et directeurs d'école en responsabilité de tout. C'est-à-dire que le moindre souci dans l'école retombe sur nos épaules. On est en responsabilité.
Et y compris grave souci, vous avez les mêmes problèmes que les maires à certains égards quand vous êtes directrice
sur
d'école.
Les questions de sécurité.
Et je rajouterais que justement, les directeurs d'école, en effet, ils sont responsables de tout et ils sont décisionnaires de rien. C'est-à-dire que lorsque les directeurs d'école doivent réagir dans l'urgence, peut-être prendre des décisions, ils ne leur incombent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'ils fassent référence à une tutelle extérieure ou la mairie pour les tâches matérielles ou l'inspection académique. Et là, je reviens sur l'histoire du statut. Le statut aussi, c'est peut-être aussi leur donner les moyens de pouvoir prendre les décisions, bien entendu, collégialement avec leur équipe. C'est-à-dire que le supériorité hiérarchique, en fait, qui souvent est associée au statut, cette supériorité hiérarchique, c'est pas celui d'un petit commandant. Non, simplement le fait de pouvoir asseoir aussi ces décisions vis-à-vis aussi de la hiérarchie de l'éducation nationale. C'est-à-dire, ça va dans les deux sens lorsqu'on est décisionnaire. Lorsqu'on est décisionnaire, on peut être aussi reconnu par les maires, par les parents et par les inspecteurs de l'éducation nationale. Donc, il ne faut pas oublier que ça va dans les deux sens lorsqu'on peut prendre des décisions.
Maëlys, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Maëlys. Soyez la bienvenue.
Moi, je voulais intervenir, mais ça prend la suite exactement de ce qui vient d'être dit concernant la disparité des moyens entre les moyens mis à la disposition des directeurs d'école et les moyens mis à la disposition des principaux de collège. Moi, j'ai été directrice d'une école de 250 élèves pour finir ma carrière et je n'avais pas de secrétaire pour assurer toutes les tâches administratives et elles sont nombreuses, vous venez de le dire. Toutes les tâches de comptabilité et elles sont nombreuses. Qui s'occupe de l'enfant qui est malade dont on vient d'appeler les parents? Je n'avais pas d'infirmière non plus. Et qui s'occupe aussi de remplacer l'enseignant dont la classe est vacante puisque le maître est en congé maladie le temps que l'inspection académique envoie quelqu'un. Voilà, c'était le point sur lequel je voulais intervenir parce que cette grande disparité, elle fait que les directeurs, ils essoufflent, ils en ont ras-le-bol au bout d'un certain temps. Alors que si les moyens administratifs étaient mis à leur disposition, ce que vous venez de dire à l'instant, eh bien, peut-être que dans la durée, ils tiendraient le coup. Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Maëlys, c'est ce que vous disiez, Aline Becker. Et parfois, il suffit de pas grand-chose. En effet, l'équivalent de ce qu'étaient les emplois aidés, c'était évidemment un nombre de tâches administratives importantes qui n'était plus sur vos épaules.
Oui, tout à fait. C'est ce qui nous permettrait de retourner au cœur de notre métier, de mieux faire fonctionner les écoles et donc de mieux faire réussir les élèves, qui est quand même
Il vaut mieux ça, c'est-à-dire quelqu'un à côté pour vous aider ou avoir un adjoint officiel, si je puis dire. Au fond, qu'est-ce qui serait préférable pour vous, en fait? Est-ce que c'est l'administratif tout venant dont il faut que quelqu'un vous débarrasse, en quelque sorte? Ou est-ce que partager avec quelqu'un de l'école serait meilleur pour vous? Alors, diriez quoi?
Tout dépend de la taille des écoles. Sur des écoles qui font pratiquement la taille d'un collège, on en voit notamment en région Île-de-France, où on a de très très grosses écoles, où parfois il peut être nécessaire d'être deux directeurs pratiquement à assumer la fonction. Sur des écoles, moi j'ai une école de 7 classes, je n'ai pas besoin d'avoir un adjoint pour assumer ce qui fait le cœur de mon métier. Par contre, j'ai besoin effectivement d'être soulagée sur l'ensemble de mes tâches administratives, sur le suivi des choses toutes simples, le suivi des commandes, les inscriptions, les demandes de certificats de scolarité, toutes ces petites choses-là qui, mises bout à bout, alourdissent considérablement la tâche et nous éloignent et nous détournent et nous font perdre du temps par rapport à ce qu'on souhaiterait faire et bien faire.
Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue Isabelle.
Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Ah, d'accord. Je ne sais pas si j'étais à l'antenne.
Si, vous y êtes.
Je suis un petit peu impressionnée.
Je vous en prie.
Non, mais je reviens sur ce que j'écoute depuis le début. Moi aussi, c'est une colère mais incommensurable. C'est un ras-le-bol général. Moi, j'étais directrice pendant presque 10 ans. Là, ça fait 5 ans que je ne la suis plus. J'ai fini par un burn-out, hein, tout simplement. Parce qu'il faut tout gérer. Tout, tout, tout. C'est-à-dire le savon, les toilettes. La fuite d'eau. Moi, je me suis arrivée un jour, l'école était envahie d'eau. Il a fallu, dans l'urgence, trouver une solution. En même temps, il faut virer vos classes, 28 élèves, 28 CM, les ordinateurs en panne. Enfin, tout un système qui fait qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et puis les réflexions continuelles, comme quoi on est tout le temps en vacances, qu'on est des privilégiés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est plus possible d'entendre tout ça. C'est plus possible. Et moi, ça me rend malheureuse de voir qu'une de nos collègues en soit arrivée à ce geste-là. Et moi, je sais que j'en ai été pas loin non plus, parce que j'en pouvais plus. Et puis voilà quoi. Et puis toutes ces tâches administratives à faire constamment, ces réformes qui n'arrêtent pas d'arriver, il faut toujours tout changer. On est tout le temps sollicité. Et puis voilà, puis les problèmes avec les parents, l'agressivité des enfants de moins en moins respectueux qui n'écoutent pas. Moi, j'étais dans une école de 4 classes, dans un quartier assez difficile. Et j'ai fait le gendarme aussi. Je me suis retrouvée sur le parking entre des parents qui étaient en train de se battre. Est-ce que c'est ça mon métier ? Non. Moi, j'ai pas signé pour ça.
Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Cécile Rilac, je vois que vous avez levé le doigt, bravo, oui. Comme à l'école. Mais moi je suis frappée par l'ensemble de ces témoignages, alors pas surprise, mais frappée, qui disent tous la même chose et les mots qui reviennent tout le temps, c'est effectivement des tâches qui servent à rien, c'est les réformes qui tombent du ciel, boum, de manière totalement verticale, sans qu'on en soit averti, et c'est tellement compliqué après à mettre en place dans une équipe pédagogique, et j'entends encore une fois le problème d'image vis-à-vis de l'institution.
Oui, en fait, je voulais aussi revenir parce que les deux témoignages disent exactement la même chose, celui de Pierre et celui-ci. Mmh. Et ça a été confirmé par Georges Fotinos qui a fait une enquête l'année dernière qui est parue en septembre 2018 sur le moral des directeurs d'école et où il estimait que quasiment 4 directeurs sur 10 étaient quasiment en situation de burn-out.
En état d'épuisement professionnel. Pour d'un quart d'entre eux, il y a suspicion de gravité cliniquement significative.
Exactement.
De ne pas y en avoir beaucoup. Des métiers où on peut lire des choses de ce genre-là.
Voilà, et en fait on le retrouve aussi dans par exemple les cadres, les chefs d'établissement du second degré, c'est-à-dire que c'est à partir du moment aussi vous êtes en responsabilité justement d'un grand nombre de paroles. Et la dernière fois j'entendais un directeur qui l'exprimait très très bien, il disait que lui il se souciait en permanence du bien-être, il se souciait du bien-être de ses élèves, du bien-être de ses enseignants, de ses collègues, et en fait, lui, qui se souciait de son bien-être. Et c'est vrai que c'est lorsqu'on est aux responsabilités, il y a cela aussi, c'est que souvent, on veut que cela fonctionne bien, on veut pour les autres, et on s'oublie un petit peu soi-même. Et je pense que c'est la revalorisation, et c'est pour ça que c'est très important de revaloriser ce métier. Mais à tous les échelons.
Alors voilà,
les,
et puis revalorisation, ça parle d'argent aussi. Je suis en train de manger la question de Nathalie, mais c'est pas bien grave. Aline Becker, qu'est-ce que ça représente financièrement d'être directrice d'école, en plus de simplement, pardon, des guillemets, professeur des écoles?
Alors, finalement, pas grand-chose, hein, puisque moi j'ai repris les indemnités. Je suis à 343 € brut par mois d'indemnité pour gérer une école de cette classe, ce qui est finalement peu par rapport à la fois au nombre de missions, mais aussi à la responsabilité. C'est vrai que il y a quelque chose aussi qui n'est pas tellement mesurable, on va dire, quantitativement. C'est le poids de la responsabilité qu'on a. Et ça, c'est très poreux dans notre vie personnelle, parce qu'on rentre souvent avec ces préoccupations-là, on a du mal à s'en débarrasser, on a du mal à dire « je mets de côté, j'oublie un peu, je verrai lundi ». En fait, ça nous accompagne en permanence. Et c'est quelque chose aussi qui pèse sur la difficulté du métier, c'est d'avoir sans arrêt ce poids de responsabilité-là, avec le sentiment quand même qu'on est peu accompagné par l'institution de ce point de vue-là. Et la question de la formation, là, elle pourrait aussi nous aider si on pouvait avoir une formation, pas simplement la formation initiale pour entrer dans cette fonction-là, mais même avoir régulièrement un accompagnement, des formations, répondre à nos problématiques.
Et quand vous avez un souci, d'ailleurs, vous appelez qui ? Aline Becker, s'il y a un problème que vous n'aurez pas réglé parce que
Par exemple, là j'ai eu un souci avec ce qui arrive très fréquemment dans beaucoup d'écoles, avec une famille qui se des parents séparés qui se déchirent un enfant, une mère qui décide de déscolariser l'enfant de cette école pour le scolariser ailleurs. Nous on n'est pas juge, on n'a pas le pouvoir d'arbitrer les choix des parents. On se retrouve à devoir prendre une décision immédiate. Moi le réflexe, c'est j'ai appelé l'autonome de solidarité pour être sûr que ce que j'allais donner comme réponse à l'un et l'autre des parents était dans le respect du cadre de la loi et dans mes prérogatives à moi en tant que directrice d'école. Voilà, c'est ce type de demande que je peux faire. Bon, il m'arrive quand même régulièrement de solliciter les conseillers pédagogiques de la circonscription, l'inspectrice de ma circonscription quand j'ai une incertitude, une question. C'est des démarches que je fais régulièrement parce qu'on a besoin d'être confirmé ou conforté dans les décisions qu'on prend.
Vous êtes très nombreux au 01 45 24 7000. Il nous reste que 3 minutes. On va prendre Sandra parce que c'est vous qui avez patienté le plus longtemps. Sandra, pardonnez-moi et soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux invités. Moi, je tenais en fait à parler au nom effectivement des différents directeurs parce qu'on a tous des missions un petit peu différentes. Moi, je suis directrice d'une classe unique. Donc, je fais toute seule. J'ai 4 jours de décharge par an. Voilà. Un jour de décharge, il faut savoir que c'est un jour où on est remplacé. Donc, on peut sortir de sa classe pour essayer justement de tenter de résoudre toutes les tâches administratives qu'on nous confie. Évidemment, 4 jours, c'est complètement dérisoire. Surtout qu'on ne peut pas les prendre quand on veut, évidemment. Je pense que là où on pourrait tous se rejoindre, tous les directeurs et pour le coup, les équipes enseignantes également, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour travailler ensemble. On a besoin évidemment d'une reconnaissance de notre hiérarchie. Je tiens quand même à dire que nous avons une collègue effectivement qui s'est donné la mort il y a peu de temps, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a de nombreux cas. J'ai quand même l'impression que c'est en train de se développer. Pardon, je suis un peu impressionnée. De se développer de plus en plus, malheureusement. On se sent seul. On se sent très seul dans les écoles. Quand j'entends des directeurs qui disent qu'ils ont effectivement 300 élèves et qu'ils sont seuls, alors que dans le secondaire ou effectivement, on n'a pas du tout le même encadrement. On a besoin effectivement d'être épaulé. Alors moi personnellement. C'est même pas le statut là dont on devrait parler maintenant. Il y a une situation d'urgence. Il y a vraiment une situation d'urgence d'aider tous les directeurs actuellement. Je pense que tous les rassemblements qui ont eu lieu au nom de Christine Renon pour la cité ont bien démontré que c'est urgent. Merci. On ne doit pas attendre. Ça fait 2 ans qu'on en parle effectivement avec des rapports. Ça fait des années qu'on parle d'allègement de tâches administratives. Mais ça n'a toujours pas lieu.
Merci beaucoup Sandra pour ce dernier témoignage. Pour répondre rapidement, Cécile Rilac, pour une décision pour que les directeurs et directrices sentent qu'il se passe quelque chose autour d'eux, avant même ce projet de loi, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ?
Le ministre s'est exprimé en disant qu'il allait de nouveau réouvrir la concertation avec les organisations syndicales sur la question du directeur. Donc ça, à voir. Simplement un dernier point parce que c'est très important.
Très, très vite.
Très, très bref. C'est ce qui est mis en place aujourd'hui qui s'appelle la gestion de ressources humaines de proximité en éducation nationale. C'est quelque chose qui, ça y est, enfin arrive, de manière à justement permettre aux directeurs et aux enseignants, qu'ils soient du primaire ou du secondaire, d'avoir des gens pour discuter à côté d'eux.
Et merci beaucoup, ce sera le mot de la fin ce soir. Merci à tous, merci pour vos nombreux appels et portez-vous bien.